Chaque samedi, je vous retrouve pour vous présenter des documentaires biographiques de femmes et d'hommes d'exception. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Jusqu'au 1er février 2021, le Centre Pompidou de Metz, en partenariat avec France Culture, présente une exposition consacrée à Yves Klein, figure majeure de la scène artistique française et européenne d'après-guerre. Le ciel, l'air, le vide et le cosmos figurent alors l'atelier immatériel propice à réinventer l'art et le rapport de l'homme au monde après la tabula rasa de la guerre. Aujourd'hui, en nouvelle écoute, Mathieu Garrigou-Lagrange et Marie-Laure Ciboulet vous proposent Yves Klein, 1928-1962, c'est toute une vie de monochrome bleu comme le ciel.
J'ai découvert Yves Klein tout simplement. Je préparais mon bac, j'avais 17 ans, il y avait l'exposition au Centre Pompidou, la première rétrospective de Klein, je crois que c'était en 83. Et j'étais absolument sidéré par l'univers que je venais de découvrir. Et j'ai ensuite potassé le catalogue pendant tout l'été, je me souviens. Donc on avait une présentation assez exhaustive en fait, de l'univers d'Yves Klein. Les monochromes, les anthropométries, les sculptures, les peintures feu, etc. Donc c'était vraiment une présentation complète.
Donc ça signifie que vous n'avez pas eu besoin d'explication avant. C'est-à-dire que l'œuvre en elle-même vous a immédiatement bouleversé.
J'avais 17 ans, mais j'étais déjà assez intéressé par l'art contemporain. Donc je connaissais pas Klein lui-même, mais j'avais une culture, vague culture, qui me permettait d'appréhender, sans être trop pétrifié devant ce que je voyais, les œuvres de Klein.
Et vous diriez que vous avez compris tout de suite ?
Comprendre, oui, saisi quelque chose. Je ne sais pas s'il s'agit de comprendre. Je ne suis pas persuadé que l'art ne se comprend pas. On saisit quelque chose à travers l'œuvre. Et en l'occurrence, ça m'a parlé immédiatement, oui.
Je me souviens d'avoir entendu parler de Klein très jeune, de la part de mes parents, et qui tout simplement me prenait le cas d'Yves Klein comme celui du prototype du canular artistique. C'est-à-dire, il suffit d'eux. Mon enfant aurait pu le faire. Et en effet, la grande surface monochrome bleue, dans le langage convenu, cliché, sert très fréquemment de référence à une œuvre parodique.
Je pense que la peinture est invisible, est impalpable, elle est présente, c'est une présence. Je trouve que le bleu, tel qu'on le représente, est orange pour moi. Je l'ai toujours su, même avant que je m'en aperçoive.
Daniel Moquet, quel genre d'enfance et d'adolescence a eu Yves Klein, précisément, à Nice, sur la côte méditerranéenne ?
Alors, il a eu une enfance assez rêvée, parce que ni l'un ni l'autre, les parents, n'étaient véritablement des gens qui essayaient une éducation directive extrêmement structurée. Ils étaient artistes, et l'un et l'autre. S'ils disaient « je vais marcher sur la lune », la mère était tout à fait d'accord pour tenir l'échelle. Et quand on regarde sa vie et son œuvre, il a toujours eu des idées et toujours eu foi dans ses idées et suffisamment, dirais-je, de charisme pour que les gens autour de lui soient d'accord.
On disait qu'il avait gardé un côté enfant capricieux aussi.
Sûrement. Et puis, je pense qu'on ne peut pas méconnaître l'ego ou le côté mégalo des créateurs.
Jacques Villeglet, j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment vous avez connu les parents d'Yves Klein avant même de connaître Yves Klein, je crois.
J'ai connu la galerie Colette à lundi dès 1947. Donc, Marie Raymond exposait chez Colette lundi. La famille Klein était très bourgeoise, hein, aussi bien le père que Marie Raymond. Vous voyez la photo du mariage des parents, grand hôtel sur la Côte d'Azur, etc. Ils sont très jeunes. Klein a toujours baigné dans le milieu de la peinture. Son père était un peintre qui peignait lent. Sa deuxième femme disait « Oh, je l'adore, il peint lentement ». Alors vous voyez, à notre époque où on était déjà à la vitesse, Mathieu, Pollock, on s'amusait d'entendre la deuxième femme de Raymond Klein dire « Ah, oh, j'adore, il peint lentement ».
Alors, il ne s'oriente pas immédiatement vers une carrière artistique. Il y a d'abord l'envie de faire l'école de la marine marchande, puis les langues eaux à Nice. Il y a plusieurs velléités comme ça à ce moment-là.
Oui. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il était un étudiant dans le système éducatif français de l'après-guerre extrêmement brillant. Il faudrait se rendre compte qu'il avait plein d'idées. Déjà en tant qu'enfant, il était tout à fait chef de bande, il était toujours le capitaine, il avait la casquette du capitaine, il était le mousquetaire, il devait être d'Artagnan, bien évidemment, et il avait tout un tas de gens autour de lui qui le suivaient. Et lorsqu'il doit arriver au baccalauréat, il n'a pas son bac, ce que, évidemment, les critiques... On dit, évidemment, comme il n'a pas eu son bac, il a fait le monochrome. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'il était une personne qui avait 100 000 idées à la minute et qu'il fallait qu'il se réalise d'une façon ou d'une autre. Donc, il cherchait, au départ, il n'avait pas du tout envie d'être peintre.
Puisque c'était un rejet, au fond,
total,
monde de l'art, puisqu'il était incarné par ses parents.
Bah évidemment, c'était papa-maman. Ce que fait papa-maman, ça n'intéresse pas toujours les enfants. Mais il savait qu'il aurait une grande destinée. Donc, il a essayé de voir un petit peu, il a flirté un peu à droite, à gauche, et puis il a rencontré des copains sur la Côte d'Azur, Armand et Claude Pascal. Ils se sont rencontrés au judo, ils devaient avoir à peu près 17-18 ans.
Donc le judo fédéré comme ça
Oui, le judo est arrivé après la guerre. C'était une espèce de chose un peu ésotérique. Donc effectivement, c'était quelque chose qui l'attirait parce que c'était un truc nouveau. Et ça donnait évidemment une importance tout à fait particulière à l'individu qu'il pratiquait.
Il n'y avait que moi qui était vraiment un inconditionnel qui dirait « je serai toujours peintre ». J'ai une lettre d'Yves qui dit « toi tu as de la chance, tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux être artiste ». Daté aussi de 48.
En archive, le plasticien Armand.
Moi c'est plutôt le mythicisme, le judo ou les deux ensemble. Je me vois bien comme un grand maître, tu vois. Bon. Et on faisait de la méditation, on faisait jeûner, on était végétarien, on faisait des tas de choses comme ça. Et c'était beaucoup plus la préoccupation profonde d'Yves et de Claude Pascal. Moi, je restais beaucoup plus incarné dans la vie de tous les jours. Presque. C'était un drôle de divorce, d'ailleurs, les soirées avec Yves et Claude Pascal, quand ils étaient devenus complètement mystiques, et que je les rejoignais, et le reste de la vie, pour moi, qui était un peu... De plus, je n'ai pas pu les suivre quand ils sont rentrés, après, dans une sorte de secte qui s'appelait les Rosicruciens, la branche américaine de Oceanside. Parce que le discours... La cosmogonie de Max Endel, sur laquelle Yves s'étend prodigieusement tout le temps, c'est sa Bible qu'il brandit comme un preacher américain. Moi, je trouve ça complètement neuf. Il faut dire que j'ai fait des études un peu plus poussées que Yves et Claude Pascal. Et j'ai un certain goût du rationalisme, un certain goût pour la science. Et je suis un petit peu stupéfait.
C'est le moment, Nicolas Bourriaud, où Yves Klein suit par correspondance les cours de la société rosicrucienne qui prône le pur esprit contre toute contingence physique.
Je pense que Klein trouvait dans l'ésotérisme rosicrucien une confirmation de certaines intuitions formelles. Par ailleurs, tout l'univers de pensée d'Yves Klein est un syncrétisme où se mêlent à la fois Bachelard, les Rose-Croix, le judo, et il va faire son miel en fait d'influences extrêmement diverses. Je ne sais pas uniquement un rosicrucien. À certains moments, effectivement, certains aspects prennent le dessus. Il va être plus judoka, à certains moments, plus rosicrucien à certains autres, mais sans jamais qu'un dogme quelconque ne vienne submerger une pensée qui est beaucoup plus syncrétique et originale qu'un simple suivisme.
Et l'apport de Bachelard, quel est-il ?
Ben c'est l'air et les songes, c'est la poétique de la rêverie, c'est là encore une volonté de s'échapper des canons de la pensée de l'époque, je dirais. C'est pas, Bachelard, c'est pas une référence très courante dans les années 50 parmi les peintres. Bon, il existe, il est lu, mais la question de la rêverie et de l'oisiveté, encore, fonde le rapport de Klein à l'art dans sa totalité. Finalement, ce que Klein va essayer de chercher, à la fois chez Bachelard, les Rose-Croix ou le judo, c'est les moyens d'aiguiser sa sensibilité, se transformer en athlète de la sensibilité, d'une certaine manière. Et c'est cet athlétisme-là, je veux dire athlétisme de l'âme, comme aurait dit Antonin Artaud, qui va fonder sa vision de l'artiste comme une sorte de pile atomique, de surhomme, de magicien capable de faire surgir la sensibilité matérielle, une énergie, si vous voulez, que les autres n'ont pas. C'est quelqu'un qui va s'entraîner à capturer et canaliser l'énergie.
Je crois qu'il croyait en un dieu catholique.
Il était croyant, on le sait.
Oui, il était croyant. Mais il avait une spiritualité, c'est-à-dire qu'il avait autre chose. Il pensait que la vie ne s'arrêtait pas à ce que l'on voyait, qu'il y avait quelque chose d'autre et qu'on était au balbutiement des découvertes. Et il militait très fort pour la lévitation. Et je pense qu'on ne peut pas non plus oublier que quand il arrive au Japon, c'est en 53, il a 25 ans, le Japon de 53 ou de 52, c'est un Japon qui est meurtri par le 6 août 45, par Nagasaki 3 jours plus tard, et qui a besoin de se refaire, évidemment de puiser dans leurs ressources spirituel, et donc c'est un Japon éminemment spirituel. Et lui qui a tendance à aimer la spiritualité, il s'est retrouvé là dans un endroit où le vide, pour les shintoïstes, est quelque chose de tout à fait logique.
Alors, Denis Rioux, Yves Klein, jeune, effectivement, grandit dans ce milieu artistique, en même temps, on a l'impression qu'il ne le valide pas totalement et qu'il est un peu à distance de ce milieu artistique et du milieu de ses parents.
Oui, mon hypothèse, elle est un peu psychanalyse de bazar, mais enfin, mon hypothèse, c'est que c'était très compliqué pour lui de devenir peintre, devenir artiste, mais artiste dans les arts visuels, ayant précisément une mère peintre abstrait et un père peintre figuratif, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix. En principe, il n'y avait pas d'autre choix où vous étiez abstrait. Alors, en plus, il faut dire qu'à l'époque, dans les années 50, c'est la grande querelle, hein, contre l'abstraction, pour l'abstraction, et puis à l'intérieur de l'abstraction, l'abstraction froide, et donc géométrique, si vous voulez, l'abstraction lyrique. Et donc, il ne veut pas choisir entre papa et maman d'une certaine façon. Et s'il est artiste, il va devoir choisir. Et il va trouver, c'est absolument manifeste à mon avis, il va trouver une voie qui lui permet de ne pas choisir. La monochromie lui permet de ne pas choisir. Parce qu'en plus, il va prétendre que, je pense qu'il n'a pas tort, mais il va prétendre et défendre que le monochrome n'est pas une peinture abstraite. Il n'est pas peintre abstrait. Ça, il le redira tout au long de sa vie, ce n'est pas un peintre abstrait.
Il arrive sur la pomme on se rencontrait toujours sur la pomme d'Adès, il est tout jeune. Pas, il devait avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Il avait un cahier, il prenait toujours des notes aussi. Il était toujours un busybody. Et il arrive avec un cahier qui se fermait avec une ficelle. Et il y avait un rond bleu outre-mer. Toute ma vie, je me rappellerai de ça. Puis il me dit, tu vois, Coco, c'est la condition future de la peinture. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Tu tueras, tueras.
Denis Rioux, vous nous avez amené aujourd'hui une plaquette qui s'appelle Yves Peinture. De quoi s'agit-il?
Alors Yves Peinture, c'est en effet une petite publication, on peut appeler ça une plaquette, hein, qui a été réalisée par Yves Klein en 1954 à Madrid. Et il a réalisé ça avant toute activité de monochrome ou de peinture connue.
C'est-à-dire qu'il n'était pas peintre à l'époque où il faisait cette plaquette.
Il a fait quelques aquarelles antérieures, etc. Mais enfin, ce sont des travaux de jeune homme, etc. Mais il se dirigeait pas vers la peinture au moment où il fait ça. C'est ce qui signe en quelque sorte son départ dans la peinture. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là une publication qui à la fois anticipe ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'il va réaliser des monochromes, et on le connaît aujourd'hui pour ça, naturellement, et qui en même temps se présente comme une rétrospective.
Hein, donc il invente un catalogue d'une exposition qui n'a jamais eu lieu,
qui n'a pas
encore
eu lieu, mais qui aura lieu.
Parce qu'il n'y a pas d'œuvre.
Voilà, il n'y a pas encore d'œuvre. Alors, ça se présente comme des feuillets séparés. Et donc le titre, c'est « Yves Peinture, 10 planches en couleur, préface de Claude Pascal ». Et quand on la regarde, préface, vous avez seulement des lignes noires qui figurent de la typographie, mais il n'y a rien à lire. Ce sont simplement des barres comme ça, qui indiquent des paragraphes, des mots et des paragraphes. Et donc c'est une glose vide, si vous voulez. C'est tout à fait fascinant de voir ça. Et vous avez une série comme ça de petits monochromes, jaunes, rouges. Bien entendu, vous avez aussi un magnifique bleu, très, très, très grand, là en l'occurrence, très, très, très royal, à Paris, 1954, 195 par 97. Enfin, donc, les précisions, comme ça. Et Yves, non pas Yves Klein, mais Yves, il signera longtemps Yves, puis Yves le monochrome. Après ce Yves Peinture dont nous venons de parler, il décide de passer à l'acte dans le milieu de l'art, et il présente en 1955 une peinture, un monochrome orange signé, ce sera le seul signé devant, hein. Après il signera derrière, donc ce sera totalement immaculé. Il le présente pour ce salon des réalités nouvelles, qui est un salon donc dévolu à l'abstraction. Sa mère fait partie du comité, hein. Il le présente à l'admission et ce tableau est refusé. C'est tout à fait extraordinaire. Il est refusé parce que les membres du comité disent que ça n'est pas un tableau abstrait. Ajouter une ligne, une petite tache, un point même, mais quelque chose. Mettez quelque chose pour que ça devienne un tableau abstrait. Et donc, à partir de ce refus sur lequel il se fonde, il bâtit toute une conception de la monochromie qui échappe à ce dilemme abstraction-création.
Le monochrome, c'est parce que, je crois qu'on avait rebattu les oreilles, de l'abstraction.
Daniel Moquet, directeur des archives Klein.
Qui a été après avec l'Action Painting aux États-Unis, donc où on faisait des espèces de lignes comme ça. Et lui a eu une idée en disant « Mais la peinture, ça n'est pas la ligne, c'est la couleur. » Et si on veut aller jusqu'au bout de son propos, il ne faut montrer que la couleur.
Il y a une très longue histoire du monochrome tout au long du XXe siècle, et même au XIXe. N'oublions pas la peinture tantrique, d'ailleurs non plus indienne, au XVIIe siècle, qui présentait déjà des monochromes. C'était des exercices de spiritualité. Et le monochrome ne se réduit pas à l'histoire du modernisme. Je pense qu'il faut l'envisager sous un bien plus long spectre historique. À partir de ce moment-là, l'imprégnation de par la couleur que nous propose Yves Klein est une expérience à la fois intellectuelle et physique. Et de ce point de vue-là, c'est pas tout simplement une petite anecdote dans l'histoire du XXe siècle. C'est une œuvre qui nous emmène bien plus loin, vers l'Antiquité même, je dirais, puisque il y a un rapport assez évident, à mon sens, entre l'artiste moderne et le philosophe pré-socratique, par exemple. Il y a une notion qui est extrêmement intéressante dans l'Antiquité romaine, c'est la notion d'exemplum. les exemplats étaient les gestes exemplaires, manifestes, que produisaient les philosophes afin de diffuser leur enseignement. Beaucoup d'œuvres du XXe siècle sont des exemplats. Joseph Beuys, Yves Klein, Andy Warhol ou bien d'autres reproduisent des exemplats. De la même manière que Diogène avait son tonneau, par lequel on peut comprendre l'essentiel de sa philosophie, beaucoup d'œuvres du XXe siècle nous introduisent à une pensée, à un univers, à travers des formes. En ce sens-là, certains artistes modernes sont plus proches du philosophe présocratique que du décorateur, si vous voulez.
Jacques Villeglé, artiste nouveau-réaliste.
Sa première exposition monochrome, c'était une exposition où il y avait des peintures monochrome jaune, rouge. Donc quelqu'un lui a dit, mais non, vous n'êtes pas monochrome, vous êtes polychrome, parce que vous faites du rouge, du jaune, etc. Et Klein, c'est là où j'ai vu qu'il ne disait rien, mais il écoute tout. Hein. Et vous voyez, l'année suivante, il fait que du bleu.
Tout le monde fait une polychromie, c'est-à-dire qu'ils disent « oui, il n'y a rien de nouveau ». En fait, c'est un tableau de Mondrian qu'il a éclaté. Le carré jaune est là, le carré bleu est là, le carré rouge est là, donc voilà. Et il s'aperçoit que s'il veut réussir à ce que les gens comprennent le message, il faut choisir une couleur seule. Et il choisit le bleu.
Pourquoi le bleu ?
Il pense que le bleu, c'est l'espace, et il pense que le bleu a un gros avantage sur les autres. Toutes les autres couleurs, dit-il, ont des limites, sauf le bleu qui est sans limite. Un monochrome dans une pièce, les gens perdent le contact de l'échelle. Il plonge vraiment dans la couleur.
Pourquoi fait-il un nouveau monochrome après en avoir fait un autre ?
Parce qu'il dit, il écrit qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre.
Alors, Denis Rioux, Alphonse Allais fait, bien avant Yves Klein, une plaquette qui ressemble quand même beaucoup à ce que Yves Klein va faire par la suite. On sait qu'effectivement Malevitch fait au début du XXe siècle, en 1915 je crois, son carré noir sur fond blanc, puis après son carré blanc sur fond blanc. Il y aura aussi entre-temps un certain nombre de peintres américains. Alors qu'est-ce qui fait que Yves Klein se dit et est reconnu, je crois, comme étant l'inventeur du monochrome en peinture ?
Alors, se dit, oui, certainement, est reconnu, ça fait encore un peu débat. Pour ma part, j'avais défendu l'idée que c'était lui qui inventait le concept, hein, et que c'est à partir de cette invention du concept qu'on peut véritablement parler de monochromie. Parce que si vous cherchez chez Rodchenko, ou bien chez Malevitch, ou même sur les peintres américains comme les peintures noires ou les peintures blanches de Robert Rauschenberg, vous n'avez pas la notion de monochrome. Ce n'est jamais dit.
Ah, donc c'est le mot qui n'est pas
employé.
C'est le
mot, oui. Donc s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la catégorie. Et donc la monochromie n'existe pas. C'est justement une catégorie. Et quand vous avez Alphonse Allais, il va parler de planches monochroïdales. Monochroïdal, c'est ce qu'il y a de plus proche. C'est très proche, mais c'est pas la même chose non plus. Et en plus, c'est une dérision, ce qui n'est pas du tout le cas de Klein. Donc, il est l'inventeur, d'une certaine façon, de la catégorie, et il est celui qui l'a véritablement porté. Tandis que les autres ont fait comme ça, un ou deux, et puis Rauschenberg n'est pas connu pour ses peintures noires ou ses peintures blanches, par exemple, mais pour ses combined paintings. Donc voilà, donc il y a vraiment une différence assez fondamentale, et on ne parle pas de monochrome dans l'histoire de l'art ou dans la critique d'art avant ce milieu du XXe siècle où Yves Klein le promeut, le monochrome.
Mais alors, qui est artiste, Nicolas Bourriaud, et qui ne l'est pas ? Parce que des gens qui ont fait des monochromes à la même époque que Yves Klein, il y en a eu plusieurs.
Or, il y a cette idée de l'élection de l'artiste. Mmh. Finalement, si quelqu'un dans la rue fait un monochrome, ça n'est pas un artiste, mais si c'est Yves Klein qui le fait, c'est un artiste parce que il a une sensibilité qui serait hors du commun. Comment est-ce que dans la théorie d'Yves Klein, on fait la différence entre les artistes et ceux qui ne le sont pas?
Là encore, on est dans le registre de la mystique, c'est presque le miracle de l'imposition des mains, d'une certaine manière. On est, avec Yves Klein, dans une sorte d'incandescence de l'irrationnel. Mais ce qui fait la différence, donc chez Klein en tout cas, entre un objet et un autre, c'est sa charge, la charge dont il est porteur. C'est quoi cette charge? C'est précisément ce que Yves Klein va s'efforcer de spécifier, d'identifier en tant que tel, je veux dire, au point de vraiment de faire porter tout son effort d'artiste sur l'imprégnation de la matière par une sensibilité immatérielle. Mais pourquoi est-ce qu'un monochrome aurait une qualité, une valeur d'un côté et n'en aurait pas de l'autre? Tout dépend de la séquence dans laquelle l'objet est pris, en fait. Un plan au cinéma peut avoir une beauté absolument extraordinaire du simple fait qu'il le succède à un autre plan et qu'il anticipe sur le suivant. Quelle est la séquence dans laquelle l'objet est pris? C'est ça la vraie question, et en art.
Lorsqu'il fait, en 1955, cette fameuse exposition au Club des Solitaires, qui invite-t-il évidemment les gens qu'il connaît, c'est-à-dire les types du cercle des ceintures noires, les copains judoka. Il y en a un qui lui dit, mais tu sais, moi aussi je suis artiste. Ah oui, oui, du reste, la semaine prochaine, je fais un vernissage. Ça serait bien que tu viennes. Très bien. Et entre eux, ils se disent, attends, on va lui faire un coup au Klein, il nous a vraiment pris pour des tocards. Et dans son pavillon, Fontenay-Rose, il passe un coup de badigeon dans le garage et il met des bouts de formica de couleur, ploum, 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 placardés comme ça. Et une sangria, cocktail, bien sûr, et ils attendent le copain Klein. Donc, il arrive, alors bonjour, bonjour, et alors, voilà, il dit, mais regarde mes œuvres. Puis lui, il passe devant, mais vraiment tout à fait attentif. Et il arrive vers l'artiste, ou le supposé artiste. Ah, lui, je n'étais pas du tout au courant que tu faisais ça. Hein. C'est formidable. Formidable ce que tu fais. Alors, je lui dis, mais attends, arrête tes conneries, tu vois pas que c'est une blague, non? Et alors, il m'a dit, il est devenu blanc, il a tourné, il est parti. Parce que c'était un homme honnête et il ne pouvait pas comprendre qu'on puisse en faire une espèce de comédie. Et toute sa vie a été comme ça. Quand il était à Montparnasse et qu'il allait prendre son café au Select, il avait les copains qui lui tapaient dans le dos et il disait « Alors Klein, toujours bleu !»
Vous voyez, est-ce qu'on peut produire des œuvres qui sont similaires aux siennes?
Thomas Schlesser, historien de l'art.
Certainement, et en même temps, à la décharge de Klein, et quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir quant à son œuvre, il faut constater qu'elles ont un pouvoir magnétique, une qualité de réalisation qui lui sont propres. Une œuvre de Klein a une singularité et une puissance très très immédiate, qui d'ailleurs, à certains égards, entre en contradiction sans doute avec son intention à lui, qui voulait au fond qu'on ne s'englue pas dans son œuvre et qu'on voit au-delà. Il faut bien dire que ce soit ses monochromes, que ce soit ses reliefs en plâtre couverts de couleurs, que ce soit ses photographies, il y a une qualité visuelle absolument remarquable, et qui invalide d'emblée l'idée que tout le monde pourrait le faire. Ce n'est pas vrai, Klein est un très très bon technicien. Mais... si vous voulez, cette dimension visuelle s'accompagne aussi d'une liberté d'expression intellectuelle qui permet au fond de dire un peu tout et n'importe quoi. Il est assez simple de prendre n'importe quel angle et d'y projeter ce que l'on veut dans l'œuvre de Klein.
La seule chose que je comprenais pas, c'est qu'il disait qu'il était le dernier des impressionnistes, le descendant de la Croix. Et ça, je comprenais pas. Et un jour, je suis arrivé chez lui et il y avait un tableau monochrome qui était éclairé par la lumière naturelle. On voyait plus ses peintures dans des musées ou dans l'atelier avec de la lumière électrique. Et là, j'ai vu que, en effet, il était impressionniste parce que la lumière naturelle faisait valoir tous les grains. Et donc, c'était de l'impressionnisme.
Qu'est-ce que c'est que l'International Klein Blue, le IKB, le fameux bleu Klein ?
Nicolas Bourriaud.
C'est une toile à la surface de laquelle tous les éléments, si vous regardez, tous les petits brins de pigments, comme si la surface était pixelisée, tous les petits éléments de pigmentés sont indépendants les uns des autres et presque spécifiés, isolés en tant que tels. Et ça, c'est assez intéressant. C'est presque une sorte de maquette du monde idéal, selon Yves Klein. Un monde dans lequel la peinture constituerait une sorte de masse rayonnante, il emploie le terme. En même temps, à l'intérieur de cette masse rayonnante, tous les éléments sont individualisés. Tous les éléments sont visibles, genre à l'œil nu. C'est ce qui donne cette qualité un peu hypnotique, en fait, à un tableau monochrome bleu.
Comme des pixels.
Oui, comme des pixels.
Parce que ces monochromes, ils sont faits au rouleau.
Oui. En fait, c'est toute la qualité en fait du fixatif qu'emploie Yves Klein, qui n'écrase pas la peinture, mais qui en laisse les atomes constitutifs libres.
Et ça, c'est ce qui est breveté. C'est le fixatif
Absolument.
De ces pigments qui fait que le monochrome garde cette couleur, cette couleur du pigment originel. Ouais.
Et d'une certaine manière, la peinture de Klein est une peinture qui essaye par tous les moyens de ne pas devenir un objet. Et c'est en cela, d'une certaine manière, qu'il rejoint aussi la problématique et la pensée situationniste qui s'acharne précisément contre la réification, mais sociale.
Pour moi, ma peinture, pour l'instant, habite cette galerie, mais je voudrais qu'elle prenne des dimensions incommensurables, presque, qu'elle se répande, qu'elle s'imprègne, n'est-ce pas, dans l'atmosphère, même, voire même d'une ville, d'un pays, n'est-ce pas.
Alors, l'exposition du vide de Nériou, de quoi s'agit-il? Et est-ce que pour vous, c'est un moment aussi très important et un moment où il y a quelque chose qui avance dans la carrière et la réflexion artistique de Klein?
Alors évidemment, pour moi, c'est le moment capital. C'est vraiment là que tout bascule et que Klein devient un artiste absolument immense qui passe à autre chose, une autre dimension, une sorte de mythe maintenant avec ça. Alors, l'exposition du vide, elle se tient donc en 1958 à la galerie Iris Clair. Elle a fini par s'appeler l'exposition du vide, mais à l'époque, en 1958, elle n'a pas de titre. Et ce titre qui va être donné tout d'abord par la presse, par les détracteurs, va finir par être utilisé par Klein lui-même, surtout quand, en 1960, son ami Armand va réaliser dans la même galerie le plein. Et donc, il y aura une sorte de diptyque entre le plein et le vide. Mais ça ne permet pas du tout de comprendre de quoi il s'agissait. En vérité, l'exposition du vide, c'est un diptyque. Vous avez tout le bleu qui est à l'extérieur de la galerie. Il est à la fois sur les cartons d'invitation, le timbre bleu qui a servi pour envoyer ses cartons d'invitation, sur le peinture qui occulte la vitrine à l'extérieur qui est bleue et qui sera blanche à l'intérieur, sur le dé qui protège la porte de l'immeuble, qui donne accès à la cour, on montrera par la cour. Le cocktail est un cocktail bleu de méthylène, bien entendu. Donc vous ingérez aussi du bleu, donc il y a du bleu partout. Il avait prévu aussi l'illumination de l'obélisque de la Concorde en bleu, ça n'a pas pu se faire, mais bon, ça a été réalisé par la suite. Puis il avait quand même réalisé des essais, ça devait être au moment du vernissage. Donc encore une fois, le bleu, un signe bleu dans le ciel de Paris. Et à l'intérieur... Alors, le blanc, ou plutôt la sensibilité picturale immatérielle, c'est-à-dire le bleu immatérialisé. La qualité substantielle, c'est la fiction, c'est la merveilleuse fiction de Klein, la qualité picturale à l'état pur. Le bleu immatérialisé, et vous êtes là, dans cet espace, avec cette idée du bleu, mais juste sa quintessence, en quelque sorte. Et c'est donc pas le vide du tout. C'est au contraire une exposition parfaitement pleine, plus que tout autre, puisque c'est l'ensemble de l'espace de la galerie qui est, c'est un terme de lui, imprégné par le bleu.
Oui, il y avait d'ailleurs interdiction d'entrée, car on avait des gorilles.
Archives de Iris Clair, galeriste.
Des amis à lui qui étaient des vrais gorilles étaient dans la porte cochère, devant la petite porte d'entrée, et ils disaient vos cartes, s'il vous plaît. deux par deux, s'il vous plaît. Alors, tous ces gens, ces 3000 personnes faisaient la queue pour entrer deux par deux, car on n'avait pas le droit d'admirer la pure sensibilité si on était trop nombreux. Alors, moi, j'étais dedans, avec Klein. Alors, les réactions des gens. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Rien. Elle m'a dit, donc, vous, alors? Ben, je dis, mais non, voyons, écoutez, regardez, ne regardez pas, fermez vos yeux et sentez, vous ne sentez pas cette présence? Cette pure sensibilité, mais laissez-vous pénétrer.
Oh là là.
Donc, Klein est absolument persuadé que grâce à ce dispositif, l'énergie dont lui-même est le dépositaire sera possible à éprouver. Sans doute, y a-t-il eu des visiteurs qui se sont pris au jeu. La vérité, c'est quand même que beaucoup de visiteurs sont amusés de tout cela. Il y a une phrase absolument formidable de Camus qui laisse sur un papier en tête de la NRF « Avec le vide, les pleins pouvoirs ».
Denis Rioux, après donc cette exposition dite du vide, Yves Klein va poursuivre dans sa recherche autour de l'immatériel et de la sensibilité. Il y a ce qu'il a appelé le journal d'un seul jour et que vous avez amené ici. Racontez-nous ce que c'est que ce journal d'un seul jour et décrivez-le-nous si vous voulez bien.
C'est un journal qu'il a publié à l'occasion festival d'art d'avant-garde qui se tenait en novembre et décembre 1960. Et il s'agit du dimanche 27 novembre. C'est un numéro unique. C'est pour ça que c'est le journal d'un seul jour. Et donc, c'est un 4 pages. Donc, si vous voulez, une feuille imprimée recto verso, grand format, qui a d'ailleurs été diffusée par les amis plutôt, dans quelques kiosques parisiens, et il y a des photographies qui ont été prises, un film qui a été tourné, et on peut imaginer que des gens ont cru acheter leur dimanche habituel et se sont tombés sur ce journal.
Toute la ville était inondée du journal d'un seul jour. Il y a un recueil de textes dans lequel il parle du théâtre, il parle du ballet, il parle de la musique, il parle de tout un tas de choses, de la lutte entre la ligne et la couleur, etc. Et pour illustrer ça, il lui fallait une une, bien évidemment, qui soit extrêmement spectaculaire. Donc, il a réalisé le saut dans le vide.
Un homme dans l'espace, c'est effectivement l'artiste qui, du muret d'un pavillon de banlieue, on voit là une petite gare de RER, en réalité c'est à Fontenay-aux-Roses, donc se jette dans le vide, hein, se propulse dans l'espace. Alors c'est une photographie magnifique sur le plan formel déjà. Là aussi on voit que c'est pas seulement une idée, hein, c'est quand même une réalisation tout à fait étonnante. Et vous avez donc cet artiste qui, dans une pose assez dynamique, un peu oblique vers le haut, file en quelque sorte vers le ciel, tandis que indifférent, ne le voyant pas, donc dans un autre monde, le nôtre sans doute, un cycliste s'éloigne sur le chemin.
Aujourd'hui, de plus en plus, le monde qui nous entoure est un monde hostile, rebelle, inquiétant. L'artiste qui a besoin de s'exprimer essaye de dominer le monde. Et pour dominer le monde, il va à la source même de la réalité.
Le 27 octobre 1960, vous avez signé au domicile d'Yves Klein le manifeste des nouveaux réalistes.
Interview de l'artiste Armand.
C'est-à-dire que vous êtes retrouvé avec un certain nombre d'artistes, Yves Klein évidemment, Jean Tinguely, Raymond Hens, Jacques de la Villeglée, Christo et Pierre Restany, pour signer ce manifeste qui était une petite phrase assez anodine.
Et ça a pris du temps pour se mettre d'accord sur cette petite phrase, parce que personne n'était d'accord entre nous. Croyez-vous vraiment que ces artistes se ressemblent beaucoup, peuvent faire ce qu'on appelle un groupe?
C'était plutôt la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'au départ, ce groupe avait rassemblé une sorte de force sociale, de gens qui étaient contre un certain nombre de choses, parce qu'ils étaient violemment contre d'autres choses, on voyait ce qui les unissait, et qu'à partir du moment où ils ont existé individuellement, on a surtout vu ce qui les séparait.
Mais bien entendu. Et alors ça a été terrible, parce que pour une phrase qui veut rien dire, cette phrase ne veut strictement rien dire. Nouvelles approches perceptives du réel, mon Dieu, on met n'importe quoi à cette sauce, depuis la peinture photo jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à montrer des objets, bien entendu, on peut tout mettre, ça, il y a tout l'éventail. Alors, ça ne veut rien dire, mais il fallait trouver une phrase, et certaines phrases proposées Je me rappelle, par exemple, proposer la réalité urbaine. Yves s'est élevé contre, parce que lui se sentait rien avoir à faire avec la réalité urbaine. Ou d'autres phrases, comme par exemple la prise de possession de trucs. Tout d'un coup, les ex-lettristes protestaient. Il n'y a pas de prise de possession comme ci et comme cela. Ils avaient un peu une dialectique isousienne. Et qui ne... Bon, tout le monde s'est disputé. Et pour finir, on s'est mis d'accord que c'est une petite phrase sans grande signification.
Une première fournée de nouveaux réalistes vont signer ce manifeste et donc adhérer au message de Restany. Certains d'entre eux le regretteront, non seulement Klein, mais d'autres qui vont se dire « Mais au fond, Restany était là comme une espèce de chef de file, mais il est venu pour nous récupérer, alors que tous revendiquaient quand même aussi un trajet assez individuel. » Et Klein était le plus individualiste parmi ces individus. C'est pas étonnant quand, très très vite, en 1961, il demande donc à se séparer de l'aventure.
Et alors, comment définir un petit peu ce qui regroupe, à part Pierre Restany, toutes ces individualités?
Alors, toutes ces individualités, d'après ce que dit Pierre Restany, ça c'est très très intéressant, elles sont regroupées par l'idée de l'appropriation directe de la réalité. Hein, j'essaye de le paraphraser de la façon la plus claire possible. Grosso modo, et là on est dans la continuité de Marcel Duchamp qui est redécouvert, qui est revalorisé à cette époque-là. Grosso modo, l'artiste, au lieu de créer ex nihilo, eh bien doit intervenir en sélectionnant une portion du réel et donc la même pas forcément la retransformer, mais se l'approprier. Et c'est l'acte d'appropriation du réel qui, aux yeux de Restany, fait œuvre. Alors, pour prendre un exemple simple, si vous voulez, chez César, ça va être de prendre par exemple des voitures et de les compresser, bon, s'approprier cette réalité pour en faire une sculpture. Ça c'est assez simple, c'est assez clair. Les affichistes vont récupérer des affiches dans la rue, etc. Avec Klein, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que Klein s'approprie? Eh bien, tout simplement, Klein s'approprie carrément l'énergie, la substance sensible de l'univers qui nous entoure.
Le ciel.
Le ciel, hein, la plus belle œuvre de Klein, c'est le ciel bleu de Nice, exactement. Et donc, ce qui rattache Klein à cette tradition des nouveaux réalistes, c'est le fait, voilà, de s'approprier carrément l'invisible, l'immatériel qui entoure les êtres et qui imprègne l'univers. C'est fort.
Il serait difficile de comprendre véritablement le travail de Klein si on ne le resitue pas dans le contexte, en fait, politique et économique, en fait, des Trente Glorieuses. C'est le moment où, en France, après la Seconde Guerre mondiale, la valeur travail tend à envahir complètement la vie quotidienne. Or, les nouveaux réalistes, et Yves Klein en particulier, sont des artistes du temps libre, en fait. C'est des gens qui vont avoir une réflexion assez spontanée, mais en même temps très forte, sur la question de l'oisiveté et du temps libre. Ne rien faire. Le fait que j'existerai comme peintre, disait Klein, sera le travail pictural le plus formidable de ce temps. Ou encore, une autre citation de Klein, « Mes tableaux ne sont que les cendres de mon art ». Il y a cette idée assez nette dans toute l'œuvre de Klein que les œuvres sont là pour produire quelque chose qui est bien plus fort que les œuvres elles-mêmes, l'artiste. Et le travail de Klein est une production de soi-même, est une véritable éducation, au sens genre noble du terme, à travers une pratique picturale. Et ça, c'est assez étonnant.
Denis Rioux, on sait que Klein aimait avoir des modèles dans son atelier, alors même qu'il peignait des monochromes. Comment va se faire ensuite le passage aux femmes pinceaux?
C'est vrai qu'il y a des femmes dans son atelier pendant qu'il peint les monochromes. Pourquoi ça? Certainement cette idée de sensibilité, de climat pictural, d'atmosphère. Enfin, il croit beaucoup à ces choses-là. Le tableau, pour lui, est quelque chose comme une plaque sensible, si vous voulez. Alors, lui indique que les femmes finalement, ont décidé de l'aider. Alors, ces modèles, c'était des modèles femmes. Bon, on ne parle pas d'hommes. Hein, donc, cette forme de séduction aussi sexuée. Hein, ont décidé de l'aider et, au fond, de se jeter dans la couleur, de s'y prélasser, de répandre cette couleur sur l'étoile elle-même. L'intuition de Klein comme artiste, et c'est là aussi que c'est véritablement un artiste, c'est qu'il comprend qu'il y a une potentialité dans cette affaire encore plus intéressante si on peut repérer les traces comme des traces produites par un corps. Et qu'il va y avoir association du monochrome et de l'immatériel, de la sensibilité immatérielle et de toute cette pureté, comme ça, et en même temps d'un corps, d'une corporalité et sans doute aussi d'une sexualité, d'un désir, d'une humanité de chair, si vous voulez. Et donc, pour ça, il faut que la trace soit lisible. Et ça va cheminer dans son esprit très, très rapidement, mais ça va cheminer. Et il va organiser une séance avec quelques amis et il y aura la présence notamment à nouveau de Pierre Restany qui, devant ces traces de femmes appliquant leur corps enduit de couleur bleue sur une toile, puis se retirant, il y a la trace de leur corps, l'empreinte de leur corps sur la toile, va s'exclamer, ce sont les anthropométries de l'époque bleue.
Le processus de l'anthropométrie, c'est que Klein officie comme un maître de cérémonie. Il est d'ailleurs très élégant quand ont lieu ces anthropométries. Et donc, il va diriger par la voix des modèles qui sont des femmes pinceaux. Hein, des femmes pinceaux qui donc se couvrent le corps de pigments, qui vont ensuite marquer des supports, éventuellement qui vont se traîner l'une l'autre pour faire des traces sur ces supports. Et au fond, la création de l'œuvre se dispense de l'intervention de la main de l'artiste. Alors, c'est souvent considéré comme quelque chose de très moderniste. Et en effet, cela rejoint ce problème de la pureté, hein, l'artiste n'y touche plus, hein, ça ne passe que par l'immatérialité de la voix. En réalité, là aussi, ça s'inscrit dans une tradition tout à fait connue. Je veux dire, les marbres de Rodin ne sont jamais taillés par Rodin, ce sont des praticiens qui créent les marbres sur ordre de Rodin. Et Klein s'inscrit exactement dans cette même idée.
Mais ce qui est assez étonnant quand on voit des photos de ces anthropométries, la plus connue, c'est donc effectivement Klein en costume, qui ne se salit pas les mains, en fait. Et du coup, il y a une distance avec les femmes nues et avilies et peintes en bleu, qui est un peu étonnante quand on lit à côté l'espèce d'universalisme de la pensée, de la théorie de Klein.
C'est incroyable. Permettez une petite anecdote personnelle. Je vais voir l'exposition de 2006 avec mon ami Laurence Bertrand d'Orléac. Nous écoutons les conversations alentour et face à un film où on voit une anthropométrie, on entend une personne qui fait la visite qui dit « Ah mais il paraît qu'il les traitait très bien ». Alors, c'est formidable. Oui, évidemment qu'ils traitaient très bien les femmes. Dieu merci, encore heureux. Simplement, en effet, on peut aussi avoir un regard un petit peu critique en constatant qu'il y a quelque chose d'incroyablement avilissant dans ces femmes pinceaux. Alors, c'est pas du tout pour jouer les, je sais pas quoi, les féministes enragées ou que sais-je. Mais il y a une contradiction entre la méthode de Klein et ses idéaux universels.
L'idée, c'est de réaliser des œuvres en touchant le moins possible la matière. Ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a ce côté aérien toujours chez Yves Klein, ne pas toucher, éviter au maximum tout contact en fait avec la matière. C'est ce côté alchimiste, ça c'est très clair aussi. Ce qui reste des anthropométries, c'est des empreintes, des traces. Moi j'y vois beaucoup, si vous regardez un petit peu l'empreinte par exemple de l'homme d'Hiroshima, c'est-à-dire cette silhouette qui est gravée à jamais sur la pierre par la déflagration atomique, on voit tout à fait bien les anthropométries d'Yves Klein. C'est assez sidérant, c'est des œuvres qui parlent de la trace humaine, qui sont presque préhistoriques de ce point de vue-là. Je veux dire, on a davantage de liens formels avec les Vénus préhistoriques ou avec les peintures pariétales qu'avec l'art de son temps. Et c'est en ça qu'il y a une qualité intemporelle dans l'œuvre d'Yves Klein qui, aujourd'hui, nous le fait voir différemment. On ne peut pas uniquement comprendre Yves Klein par rapport à son époque. Il faut penser qu'il y a une longueur d'onde historique qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus longue que les circonstances des années 50 ou 60.
Thomas Schlesser, vous êtes historien de l'art, vous vous intéressez en particulier aux liens entre art et politique. Et justement, Yves Klein a beaucoup écrit sur le monde idéal qu'il voudrait voir advenir. Quel serait ce monde qu'il imagine ?
Le monde idéal de Klein est un monde immatériel. C'est-à-dire, c'est au fond, c'est le retour à un Éden perdu, c'est-à-dire un Éden anhistorique ou ahistorique, en dehors de l'histoire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est à la fois un artiste très, très engagé. Vous savez, Roscoe disait à un moment donné, l'art doit être une action et même une action sociale. Mais chez Klein, c'est très, très présent, cette idée que l'art doit avoir un impact sur le monde. Bon, mais en même temps, dégagé de toute contingence historique. C'est-à-dire qu'il est obsédé par l'histoire, la société, la politique, mais de façon parfaitement dématérialisé. Klein conçoit à un moment donné l'idée d'architecture de l'air avec Werner Runau, avec Claude Parent, c'est-à-dire des structures utopiques. Lui-même récuse l'idée d'utopie, mais des structures utopiques où les murs seraient immatériels, hein, avec de l'air comprimé. Il imagine, de façon un peu parodique, une grande révolution bleue, c'est-à-dire où le monde, eh bien, serait tout à coup, sur le plan universel, un monde idéal, digne de l'idéal démocratique de 1789, il imagine une mer bleue en plus de la mer rouge ou de la mer noire, et au fond, il pense le monde comme une sorte d'idéal immatériel, où, au fond, tout le monde est comme pénétré par des énergies, plutôt que tiraillé par des choses contingentes, relatives et profanes.
Nicolas Bourriaud, la notion d'immatériel, c'est la base de la publicité aujourd'hui. On vend du rêve, en plus de vendre un produit. Est-ce que vous diriez que Yves Klein vend du rêve, d'une certaine manière ? Et est-ce que vous diriez qu'il a fait partie d'un mouvement sociétal qu'on voit aujourd'hui comme étant le tout marketing, le tout publicité, le tout immatériel ?
Il est très clair qu'Yves Klein anticipe de manière frappante sur la religion actuelle de l'immatérialisation. Nous sommes tous pris dans un mouvement d'immatérialisation des objets, des réseaux, et de ce point de vue-là, l'œuvre d'Yves Klein a vraiment quelque chose à nous dire sur la société dans laquelle on vit. Les grands artistes ont des antennes qui nous permettent d'anticiper sur les futurs développements et l'évolution de la société. Et chez Klein, on trouve beaucoup d'éléments qui sonne aujourd'hui de manière étrange. Effectivement, la question du vide, la trace telle qu'elle se manifeste dans l'anthropométrie, l'idée d'œuvre, en fait, de monochrome, je veux dire, dont les valeurs sont différentes en fonction de la charge dont ils ont été, qui leur a été insufflée. Tout ça participe d'une économie de l'immatériel, une économie générale de l'immatériel dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui de manière frappante.
Parce que l'exposition du vide, Nicolas Bourriaud, c'est une expérience. On entre dans une galerie, on n'y entre pas n'importe comment, il y a un chemin à parcourir, et on fait une expérience à l'intérieur de cette galerie. Aujourd'hui, ce qu'on vend beaucoup, c'est l'expérience de l'utilisateur.
Absolument. De cette manière, l'art est toujours une expérience. Mais dans le cas d'Yves Klein, ce qui est frappant avec l'exposition du vide, c'est qu'on se trouve en présence d'une expérience pure. Et non seulement est pure d'une part parce que l'exposition n'a rien d'autre à nous proposer, et d'autre part parce que cette expérience se base précisément sur du vide. C'est-à-dire c'est la coprésence tout d'un coup des visiteurs du vernissage qui fait l'exposition. Et donc on se trouve presque aussi dans l'organisation d'une sorte de réseau. Là encore, Yves Klein anticipe sur ce que peuvent être certains événements sociaux aujourd'hui. On peut le voir aussi comme ça. C'est pas uniquement un geste mystique, c'est aussi un geste social.
Mais cette vente du rien, que aujourd'hui on connaît bien, est-ce que pour vous c'est une perversion de l'idée de Klein et d'autres, ou est-ce que Klein est déjà la première personne qui pervertit, c'est-à-dire qui vend pour la première fois le rien?
Il y a une expression anglaise qui est « kill the messenger ». On tue le messager parce qu'il est porteur de mauvaises nouvelles. Je crois que c'est aujourd'hui la tentation qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'artistes comme Warhol ou Klein, d'une certaine manière. Je pense que beaucoup de détracteurs de l'art contemporain n'aiment tout simplement pas se reconnaître et reconnaître la société dans laquelle ils vivent à travers les anticipations fulgurantes parfois de certains artistes. En l'occurrence, je crois que c'est exactement le cas pour Klein. 50 ans à l'avance, il a effectivement montré ce à quoi pouvait aboutir logiquement une mise en forme et une mise en scène de l'immatériel poussé à bout. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui encore, c'est un miroir extrêmement utile, un repère extrêmement utile aujourd'hui.
La mort de Klein, qui est une mort étonnante, parce que c'est quand même un grand sportif qui meurt d'une crise cardiaque. Finalement, est-ce que cette mort coupe un artiste en plein élan, ou est-ce que vous avez le sentiment, vous, pour avoir beaucoup travaillé sur son œuvre, qu'au fond, il a déjà dit une bonne partie de ce qu'il avait à dire?
On peut en tout cas se poser la question de savoir, je ne suis pas le seul à me l'être posé, ce qu'il aurait bien pu faire après tout ça. Ça, c'est le génie d'un artiste, c'est de donner des réponses, parce qu'on posait déjà la question, et après le monochrome, et après le vide, et à chaque fois, il a trouvé des réponses. Donc peut-être qu'il aurait à nouveau trouvé des réponses encore plus extraordinaires. Peut-être aussi son œuvre était terminée. En tout cas, elle l'est, c'est un fait. Le reste, peu importe le reste. Voilà.
Donc, en tout cas,
ça fait aussi partie du mythe. Ça, c'est absolument évident. Depuis lors, c'est un drame, bien entendu. C'est un drame personnel pour son épouse, par exemple, qui portait l'enfant qui allait naître de lui. Donc, par rapport à l'histoire de l'art, qu'en penser? C'est une trajectoire qui est d'autant plus éblouissante qu'elle est comme ça extrêmement brève. C'est une œuvre aussi assez facile à saisir, puisque finalement il y a à la fois une très grande richesse, mais pas énormément de choses quand même. En 8 ans, il a produit beaucoup plus d'idées qu'énormément en 50 ans, mais tout de même c'est maîtrisable. Donc c'est quelqu'un dont la trajectoire est absolument fascinante en raison même de sa brièveté. Mais il n'y a rien d'autre à en dire. Le reste, c'est les destinées humaines.
C'était Une vie, une œuvre. Yves Klein, 1928-1962, avec Denis Rioux, historien de l'art, Nicolas Bourriaud, directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, Thomas Schlesser, historien de l'art, Daniel Moquet, directeur des archives Klein, Jacques Villéglé, artiste nouveau réaliste, et des archives du peintre Armand et de la galeriste Iris Claire. C'était également une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Marie-Laure Ciboulet. Prise de son, Marcos Darras, Yves Lehors, Christophe Goudin, Bruno Gagnère-Fontani, mixage Célia Dufour, attaché d'émission Laurence Genepin.
Une citation étonnante d'Yves Klein sur l'impressionnisme qui donne vraiment une autre facette de son travail également. Je le cite, « Tout comme les impressionnistes, dont je me considère l'un des continuateurs, tout comme plus directement encore Delacroix, dont je me considère le disciple, je flâne et rencontre des états de choses sympathiques, un paysage réel ou imaginaire, un objet, une personne, ou tout simplement un nuage de sensibilité inconnue que je traverse soudain par hasard, une ambiance. »
Bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr, une page préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet.